7h42 sur France Culture, c'est l'heure du son du jour. Un son que je vous ai concocté, Catherine Millet. C'est la présentation officielle, il y a 50 ans, de la télévision couleur. C'était en direct par le ministre de l'Information. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Georges Gorce, écoutez.
5, 4, 3.
Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie avec ses couleurs envahir vos écrans. Je veux donc souhaiter du fond du cœur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que votre vie quotidienne soit de plus en plus vrai, de plus en plus belle et de plus en plus colorée. Et pour le reste, à vous de juger, comme le disait Léonard de Vinci, l'œil se trompe moins que l'esprit.
Alors c'est pour ça que je voulais vous faire entendre ça, Catherine Millet. L'œil se trompe moins que l'esprit. Vous avez 2 heures pour commenter cette phrase. Parce qu'il y a au moins
Catherine Millet.
Bah, écoutez, on vous offrira quelques ouvrages et des autocollants en France Culture. Mais je souhaitais vous faire entendre cette phrase. Il y a au moins 2 Catherine Millet que l'on va entendre ce matin. Il y a celle qui écrit sur Lawrence, qui écrit sur le plaisir. Et puis il y a aussi la directrice d'Art Presse. Alors l'œil se trompe moins que l'esprit. Qu'est-ce que ça évoque en vous ?
En fait, on cherche quand même d'abord à tromper l'œil. En fait, il y a cette expression « trompe-l'œil ». Et moi, je pense que la télévision en couleur, finalement, c'est une sorte de trompe-l'œil quand même. Je suis pas sûre qu'on y voit toujours la réalité. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. Je veux pas avoir un discours non plus complètement négatif comme ça sur la télé. Ça dépend sur quelle chaîne on se branche, sur quelle émission. Je trouve que quand même il y a des émissions, notamment des documentaires, des choses comme ça qui nous font quand même approcher une certaine réalité, disons qu'on n'a pas l'habitude d'approcher quotidiennement et qui est la réalité des gens pris dans les guerres et des choses comme ça. Mais sinon, la réalité. D'ailleurs. Je vais te dire une chose, c'est que je trouve que ces images qui émerveillaient, ces images magiques, comme ça, ces images qui émerveillaient tellement ce ministre à l'époque, en fait, il n'y a plus d'images à la télé. Il y en a de moins en moins. Si je pense aux chaînes d'infos continues, en fait, il n'y a pas d'images. On a toujours les mêmes têtes des chroniqueurs qui nous donnent leur opinion dont on n'a pas grand-chose à faire ou qui répètent en plus synthétique les discours des hommes politiques sans rien y ajouter. Bon, et des images, vraiment des images, on en a très peu. Donc, en fait, là aussi, il y a peut-être une régression.
Vous publiez Aimé Lawrence aux éditions Flammarion, un livre consacré à D.H. Lawrence, dont on pourrait peut-être rappeler en partie l'importance en écoutant, par exemple, un extrait de la bande-annonce du film Lady Chatterley de Pascal Ferrand, un film de 2006.
C'est vraiment joli ici. J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer.
Cette cabane vous appartient, comme tout le reste ici.
Vous m'aimerez. Il faut que vous m'aimiez.
Catherine Millet, dites-nous qui était David Herbert Lawrence.
Eh bien, c'était un fils de mineur, né à la fin du 19e siècle, et qui, très très tôt, et moi c'est une des choses qui m'a fascinée chez lui, a écrit, publié, il avait à peine plus de 20 ans, des romans absolument magnifiques, à partir de l'observation qu'il faisait de ses contemporains, et qui, parce qu'il se sentait pas très très bien dans cette Angleterre, comme ça, du tournant du siècle, a, comme beaucoup de ses compatriotes, pris la route, voyagé pendant toute sa vie qui a été très courte. Il était tuberculeux, là aussi, comme beaucoup d'entre eux. Il est mort à 44 ans. Et il est resté, il a été très très célèbre dès ses premiers romans. Il était très reconnu parce qu'il a fait, très vite fait scandale aussi. Il faut dire que son deuxième ou troisième roman a été l'objet d'une censure. Mais il est surtout célèbre aujourd'hui pour avoir été 2 ans avant sa mort l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, qui reste il y a beaucoup de gens pour qui le premier livre érotique qu'ils ont lu, c'était L'amant de Lady Chatterley.
Essayez de nous résumer ce livre, livre qui a été censuré, livre qui a connu toute une série.
Alors simplement, il faut quand même noter que les Français l'ont lu avant les Anglais, si je puis dire.
Parce que les Anglais l'ont lu très tard.
Alors, le livre a été publié à compte d'auteur en Italie, en anglais. Dès que les premiers exemplaires sont arrivés en Angleterre,
il y a eu la censure. On est au début du XXe siècle.
En 1928. On est en 1928. Et tout de suite, le livre a été interdit en Angleterre. Mais il se trouve que les Français, n'est-ce pas, sont un peu plus ouverts sur ces choses-là, en tout cas à l'époque, ils l'étaient, et que le livre est paru chez Gallimard en 1932, avec une postface d'André Malraux, il faut le remarquer. Et donc, nous, on l'a lu beaucoup plus tôt. Voilà.
Ce livre raconte une histoire d'amour, une histoire d'amour en des termes extrêmement crus, Catherine Millet, entre une femme issue de l'aristocratie et son jardinier. Donc, question de différence sociale, question de présentation du plaisir, de découverte du plaisir, là aussi de manière crue. Et on fait évidemment le parallèle entre, non pas vous Catherine Millet, mais Catherine M, autrement dit, le livre que vous avez écrit en 2001, La vie sexuelle de Catherine M, où il était aussi question du plaisir féminin de manière extrêmement crue. On se dit, qu'est-ce que Catherine Millet a à dire sur D.H. Lawrence?
Eh bien qu'elle est jalouse. je suis jalouse parce que j'ai trouvé dans les pages, notamment de ce livre-là, tellement célèbre, mais que je dois reconnaître, j'ai lu très tard, peut-être parce qu'il était trop, trop célèbre, des pages que moi j'aurais aimé écrire. Alors, bien sûr, sur le plaisir féminin, je recommande à toutes les auditrices et tous les auditeurs de lire les pages qui décrivent l'orgasme de Constance Chatterley la première fois qu'elle l'éprouve avec son garde-chasse. Mais, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup frappée et intéressée, c'est que Lawrence a tenu compte aussi de ce qu'était, alors là pour le coup, la vie sexuelle des femmes à son époque, et je pense encore pour une grande partie à la nôtre, où c'est peut-être plus difficile pour les femmes de trouver le plaisir que pour les hommes. Et donc, il y a aussi des scènes dans ce roman où c'est raté pour Constance. Le garde-chasse, il est très gentil, il prend ses précautions, il est adorable, il est plein de tendresse d'ailleurs, et néanmoins, elle n'a pas trouvé le plaisir. Donc, tout ça est raconté, et d'une certaine façon aussi mis en perspective, analysé. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que bon, on peut toujours s'en servir.
Il y a aussi une dimension très moderne. Alors, la question du plaisir, on va y revenir. La question de la nature. C'est un auteur pour qui la nature occupe une place centrale.
Ah, il y a des passages dans Lady Chatterley où la nature, c'est une métaphore, quoi, en fait, de la sensualité des êtres humains. Donc, il faut savoir aussi que Lawrence a été un magnifique poète. Il a publié plusieurs recueils de poèmes, et c'est un très très grand poète, et donc le rôle de la nature dans son œuvre est très très important. Il y a un petit roman de la fin de sa vie où il décrit le fleuve, une tempête, et le fleuve qui déborde, une inondation comme ça qui emporte tout sur son passage. Moi, j'ai toujours comparé ce petit roman à du Faulkner, en fait. C'est absolument extraordinaire. Il y a des fois un côté épique dans l'œuvre de Lawrence.
C'est un livre excitant.
Il y a certains passages, ouais.
Parce que lorsque vous le décrivez dans Aimé Lawrence, Catherine Millet, vous décrivez au départ, pour l'auteur, pour Lawrence, on va dire une attirance faible. Vous n'étiez pas véritablement amoureuse au départ.
Oui.
Et puis, on vous connaît pour les descriptions extrêmement crues de scènes d'amour, mais pas forcément pour un amour de la littérature érotique.
À moi, pas du tout. Souvent, on veut m'interviewer sur mes lectures érotiques et ma réponse, c'est que non, j'ai pas grand-chose à dire parce que, en fait, a priori, ça m'intéresse pas. Et si je cherche un excitant pour ma libido, je regarde. Alors là, pour le coup, je vais donner raison aux images en couleur de la télévision.
Mais oui, André Gore se retournera dans sa tombe en vous écoutant,
Je préfère les films porno. Donc non, moi, je m'intéresse à la littérature et à des histoires, qu'elles soient érotiques ou pas, qui soient dans lesquelles je puisse rentrer, en fait, qui soient bien écrites.
En revanche, il y a quelque chose qui vous arrête et qui arrêtait déjà Malraux dans la postface qu'il a donnée à l'amant de Lady Chatterley, parce que Malraux aimait beaucoup, lui, la littérature érotique. Il a vécu au début de sa vie en vendant des petits libertins du 18e. Et ce qui l'attire, c'est la manière dont le plaisir féminin est conçu dans ce livre.
Ah bah oui.
Et là, justement, qu'est-ce que ce livre vous a sinon appris, Catherine Vielle? Je ne sais pas si on peut vous apprendre grand-chose à ce sujet, mais en tout cas, qu'est-ce que ce livre peut être... qu'est-ce que l'on peut dire à son sujet?
Une des premières choses, déjà, pour revenir justement aux scènes où ça rate pour Constance, c'est que ça rate pour Constance parce que elle réussit pas à s'abandonner complètement. Et je pense qu'en femme typique de son époque, mais je crois qu'il en existe encore beaucoup aujourd'hui, elle a un énorme surmoi. Et elle se dit, mais j'ai cédé à ce type, parce que il était attirant, enfin, mais qu'est-ce que je fais moi dans les bras de ce type qui après tout est mon garde-chasse, voilà, c'est ça en gros que ça veut dire. Il y a quand même la différence sociale qui joue, et je pense que sans que ça soit forcément ce critère-là de la différence sociale, que ça continue à préoccuper les femmes, disons l'image qu'elles peuvent donner d'elles-mêmes à travers la manière dont elles conduisent leur sexualité. Voilà, je veux pas avoir l'air d'une traînée, je veux pas avoir l'air d'une putain, si je cède trop facilement, comment on va me considérer, etc. Donc il y a ce surmoi qui en fait empêche, à mon avis, parfois le plaisir et peu importe...
Et qui, bien entendu, ne bride pas, là pour le coup, le plaisir masculin, puisque le même type d'impératif ne s'applique pas aux hommes.
Je pense pas que l'homme soit dans la même situation, non. Ça c'était une des choses, mais une autre chose aussi à dire à propos de la sexualité féminine, et qui rend peut-être les choses plus difficiles, c'est que, me semble-t-il, la sexualité masculine peut jouir très vite d'un très grand narcissisme. Pourquoi ? Parce que l'homme voit son sexe. Et il le voit puissant. Il le voit manifestant son désir. Bon. Chez une femme, c'est beaucoup plus mystérieux. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que même une femme qui ressent comme ça du désir, elle peut pas regarder ce qui se passe dans son corps. Qu'est-ce que c'est cette chose très mystérieuse qui se déroule au fond d'elle-même ? Et c'est ça aussi qui est très beau dans certains passages de Laurence. C'est que la description de l'orgasme, il a très très bien compris que ça vient de très profond dans le corps de la femme, et là aussi je pense que les femmes se posent des questions, comment ça se passe, d'où ça vient, etc. Moi je suis toujours étonnée de la naïveté, finalement. On discute beaucoup de la pilule en public aujourd'hui, on n'a plus de scrupules à le faire, mais vraiment des choses très, très vraies à dire sur le plaisir, je ne suis pas sûre qu'on les dise aussi facilement.
Comment a-t-il fait pour comprendre le plaisir féminin, Laurence?
Eh bien, il a cuisiné les femmes autour de lui, je pense. Alors, il y a tout un chapitre de mon livre qui s'appelle « Mes femmes », parce que dans une correspondance comme ça, on lui reprochait, son correspondant lui reprochait justement de s'entourer un peu de beaucoup de femmes, comme Jésus-Christ avec ses disciples. Et il répond, il défend ces femmes qui n'étaient pas n'importe lesquelles. Moi, je trouve ça formidable. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Laurence, parce qu'il aimait les femmes indépendantes. Il aimait les femmes libres. Il aimait pas, c'était la grande mode à son époque, les nymphettes, par exemple, les petites Lolitas. C'est-à-dire, on n'avait pas encore inventé Lolita, mais elle était déjà présente dans la littérature. Ou alors, la femme fatale, vous voyez. Non, lui, il s'intéressait. Une de ses premières aventures amoureuses, c'était avec une suffragette. Bon, donc il faut respecter quand même ça. La femme qu'il a épousée, c'est une femme sexuellement très libre qui n'a pas arrêté de le tromper d'ailleurs tout au long de sa vie. Et les autres femmes, c'était des intellectuelles. Il y avait Catherine Mansfield, par exemple. Bon, donc c'était des femmes qui s'assumaient, qui travaillaient, qui avaient leur vie libre, qui choisissaient leurs amants, etc. Bon, et donc il s'est beaucoup intéressé à toutes ces femmes et je pense qu'il a eu avec elles des conversations très, très intimes.
Et la femme qu'épousa Lawrence, c'était aussi une femme qui aimait les femmes.
Ah, je ne suis pas sûre.
C'est ce que j'ai lu en tout cas. C'est également ce que vous dites lorsque vous parlez d'une orientation homosexuelle de la société, c'est-à-dire d'une manière...
Oui, alors ça c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire que en fait, après avoir étudié comme ça, pourquoi il s'est intéressé aux femmes ? Parce qu'il s'intéressait au rapport... qu'est-ce qui se transformait du fait que les femmes prenaient leur émancipation, qu'est-ce qui se transformait dans le rapport entre les hommes et les femmes? Voilà, c'était ça en fait finalement son vrai sujet. Et il a fait ce constat plutôt à la fin de sa vie que plus les êtres se rapprochaient, plus d'ailleurs peut-être l'amour était grand entre un homme et une femme, et plus il prenait aussi conscience du fossé qui était infranchissable entre eux. Voilà. Et il avait cette idée que finalement, bah, pour être bien, pour vraiment échanger intellectuellement, etc., eh ben, rien n'était mieux qu'une femme pour comprendre les femmes et rien n'était mieux qu'un homme pour comprendre les hommes. C'est pour ça qu'il a parlé du destin homosexuel de l'humanité.
Et on comprend évidemment que ce livre ait fait un scandale terrible. Il a été autorisé très tardivement en Angleterre.
En 1960 seulement.
Ce qui quand même aussi permet de mesurer.
C'était les années 60.
Donc,
alors,
quand vous parlez de régression, quand même, là, à cet égard, il y a eu un progrès. Ou alors, c'est parce qu'on s'intéresse peut-être moins à la littérature. Un livre, aujourd'hui, susciterait peut-être moins de débats, Catherine Millet.
Oui, ça, c'est certain. Mais enfin, ceci dit, il y a encore des choses qui font scandale. Bon, mais... moi, j'ai pas vraiment fait scandale il y a 15 ans avec mon livre.
Soyez pas
quand
modeste.
Mais quand même, on en a beaucoup. Ça fait réfléchir, ça fait parler en tout cas.
On en reparlera dans une vingtaine de minutes. Vous parliez de ce livre que vous avez publié en 2001, La vie sexuelle de Catherine M. Et vous publiez Aimer Lawrence D.H. Lawrence chez Flammarion. On se retrouve dans quelques instants, Catherine Millet.